la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Et nous avons deux textes. Vous allez le découvrir vous-même. Nous avons deux textes dans notre Bible. Alors, le premier, c'est dans Genèse, chapitre 3. Et nous allons essayer de méditer ce passage et d'en tirer les conséquences. Alors, vous en devinerez le titre. C'est pas trop difficile. Genèse, chapitre 3 et verset 7. C'est pas trop difficile de trouver le livre de la Genèse. Vous passez la couverture et vous tombez précisément sur le livre de la Genèse. D'accord ? Alors, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre entendaient Adam et Ève s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit « J'ai entendu la voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà. Alors, nous avons donc le premier élément qui va nous situer sur une histoire assez étonnante. Que vous connaissez pour l'avoir lu, mais l'avons-nous bien compris? Alors, je vous demanderai de faire un effort, mais vous êtes tous des biblistes hors pair, et vous connaissez parfaitement votre Bible. Donc, ça n'aurait pas posé de problème. Je voudrais vous entretenir sur ce sujet qui est le mensonge de la peur. Et ne pas confondre, et nous y reviendrons, avec la peur du mensonge. Voyez un petit peu, saisissez, hein. On va vous expliquer un peu la différence. La peur du mensonge. Quand Adam et Ève se sont cachés devant Dieu, c'est que un esprit leur avait menti. Et eux, ils vont continuer à mentir, en pensant que c'est la vérité. Alors, nous allons lire dans Genèse chapitre 20 maintenant, quelques éléments que nous développerons en reprenant les versets ou en lisant les versets de ce chapitre. Il n'est pas très long, mais on ne va pas faire tout, hein, de toute façon. Alors, Genèse, chapitre 20, verset 1er, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Tchour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, enleva Sarah. Un kidnapping. Alors Dieu apparut en songe au roi, c'est moi qui l'ajoute, à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Ne t'ai-je pas empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme à cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur apporta ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Voilà. Est-ce que tous les messieurs mariés dans cette salle, vous pouvez dire « c'est ma femme ». Et moi, je vous dirai qu'elle est ma femme et elle est ma sœur. Alors, je donnais des explications parce que dans nos coutumes chrétiennes, eh bien, on dit bien ma sœur, hein, mais moi, je ne l'appelle pas comme ça, je l'appelle ma femme. Je l'appelle avec d'autres noms, naturellement. Mais c'est toute l'ambiguïté de toute cette affaire. Un chrétien est marié aussi avec sa sœur en Christ. On est d'accord. Voilà. Mais là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est ce que nous allons essayer de soulever, la compréhension. Parce que ce n'est pas ces histoires matrimoniales et de savoir où est la vérité dans tout ça. Ce qui est important, c'est le problème du mensonge. Et le problème du mensonge qui est voilé avec des demi-vérités. Parce que c'est ça. On a l'habitude, finalement, eh bien, d'aimer bien ce qui est clair, etc. Mais il y avait quand même un mensonge, mais il y avait aussi une vérité dans tout ça. Alors c'est un conflit qui va avoir lieu entre deux hommes. Et ça c'est interpellant parce que il y a un roi d'un pays qui est le pays de Guérar, et il y a un prophète qui est un homme de Dieu qui s'appelle Abraham. Et c'est quand même moche, excusez-moi l'expression, mais quand c'est un chrétien qui rend un mauvais témoignage à un homme païen, ou un inconverti, si vous voulez, un non-chrétien, que le chrétien marche un petit peu à côté de ses chaussures, et que l'homme de Dieu, Dieu lui déclare « tu es innocent, tu as fait les choses pures ». C'est pour ça que nous touchons au cœur même à la nature du mensonge, c'est que quel témoignage nous rend donc lorsque nous avons une fâcheuse habitude de mentir ? Parce que nous avons peur ! Alors que nous dirions tout simplement la vérité, il n'y aurait pas de problème, au contraire. C'est véritablement un honneur de dire la vérité. Alors, on va voir un peu comment se... Excusez-moi l'expression, mais c'est pas beau. Mais se dépatouille. Un chrétien, un croyant pour Abraham, prophète qui plus est, devant un homme qui est innocent, un roi qui est innocent, qui va se défendre de son innocence. Parce que finalement, il ne croit que ce qu'on lui a dit. Et ce qu'on lui a dit, c'était faux. Enfin, à demi-faux. Alors, nous observons dans ce récit que le parcours d'un homme de Dieu comme Abraham a eu parfois ses méandres et ses défaillances. C'est pas pour ça que ça nous justifie. Hein. On peut toujours dire, ah ben oui, Abraham l'a fait. Et Abraham l'a dit. Ça n'exclut pas finalement notre responsabilité. En somme, la Bible, et c'est pour ça que nous avons ce texte, dans notre livre, c'est que la Bible est très réaliste sur le rapport qu'elle fait en mettant au grand jour les erreurs de ses héros. Et on a vu des hommes de Dieu qui, quelque part, batifolaient un peu à droite et à gauche, et c'était pourtant des hommes de Dieu. Ils pouvaient être prophètes, ils pouvaient être pasteurs, ils pouvaient être docteurs de l'Écriture. Hein. Et nous voyons que la Bible raconte sans complaisance à la fois les sommets et les abîmes des hommes de Dieu. Et face à un peuple, qui est le peuple de Guérar, à un roi qui lui-même, on ne pouvait pas trop lui reprocher parce qu'il n'avait rien fait. Il a cru seulement à une demi-vérité, tout simplement. Et ce qui fait de la Bible un livre vraisemblable, et non une compilation de légendes héroïques et fantaisistes, si vous voulez, où les protagonistes, on a vu les deux là, hein, seraient sans défaut et hors d'atteinte du péché. Eh bien non, même les chrétiens, même les croyants, tels que nous l'avons devant nous, eh bien ne sont pas exempts de faire de grosses erreurs, de faire des grosses bêtises. Quand on voit Moïse, par exemple, il ne va pas se gêner de tuer un homme. Quand on voit David, c'est pareil. Et puis il y en a d'autres dans la Bible comme ça. Hein. Alors, c'est vrai que c'est Abraham ici qui est le croyant, un croyant illustre qui va passer sous le projecteur. Et je pense que ça nous renvoie à nous-mêmes. Dieu aime la vérité. Il nous a appelés à la vérité. Il nous a appelés à suivre un exemple personnifié de la vérité, qui est la vérité, c'est la personne de Jésus, à l'imiter. Et je pense que peut-être il y a des choses à corriger, parce que ça existe aussi dans nos églises, le mensonge. Et le mensonge qui n'est peut-être pas celui de Pharaon à main levée, qui sait qu'il ment, et il ment par plaisir, et il ment parce qu'il est content de mentir, pour tromper, mais le mensonge de la peur qui suscite en nous le mensonge, où là nous sortons des chemins de droiture, de rectitude, de vérité, et que nous nous mettons à batifoler un peu dans tout ça. Dans tout, parce que nous avons peur. Nous avons peur de la personne, nous avons peur des conséquences, nous avons peur. Alors on préfère mentir que dire la vérité. Il faut être courageux pour dire la vérité. Même si on y perd, finalement, eh bien quelque chose. Dieu nous soutiendra lorsque nous nous tenons dans la vérité. Parce que vous savez, mentir, j'ai lu ça, je crois, dernièrement, que c'est comme si mentir, c'est avaler un os, mais avec une digestion difficile. Remarquez-vous, ceci, avaler un os, vous allez voir un peu, c'est pas... faut bien le mettre à tremper hein, pour qu'il se ramollisse. Eh bien, c'est toujours avec des conséquences fâcheuses que quand on ment. Et le salaire du mensonge, c'est pas tout de suite. Hein. On se souvient même plus que, dans certaines circonstances, eh bien, on a menti. Alors, l'histoire suscite trois interrogations. Je relis. Abraham fit un séjour à Guérar. Et ça lui a jamais bien servi à Abraham quand il a fait des séjours vers le sud. Hein. Il y a l'histoire de l'Égypte, vous connaissez. Alors on en parlera, parce que c'est exactement la même histoire. Il disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. En tant que pouvoir royal, il voit une femme qui est très belle, parce que Sarah, c'est une très très belle femme. Abraham se trouve en face d'Abimélec et puis il lui dit c'est ma sœur, elle est avec moi. Et Abimélec, il se dit elle est belle, moi j'apprends. Voilà, tout simplement. Hein. Et Sarah, donc, passe pour ce qu'elle n'est pas, mais il y a une réalité quand même, parce qu'il y a une vérité, il faut bien le dire. Il semblerait d'abord qu'Abraham n'a pas réglé son problème de crainte. Voilà. Au fond du cœur, c'est comme ce que nous avons lu tout à l'heure, quand Adam et Ève se sont cachés, « J'ai eu peur et je me suis caché !» Pourquoi il avait-il peur de Dieu ? Jamais il n'avait connu ce sentiment. Jamais il n'a connu ce sentiment. Et il porte en lui Abraham, pourtant c'est pas n'importe qui, c'est pas un demi-personnage, c'est une autorité spirituelle, de foi, l'homme, le père de la foi. Et nous voyons qu'il n'a jamais réglé ce problème que Dieu est certainement venu à plusieurs reprises lui dire « Mais attends, n'aie pas peur, ne crains point, je suis ton Dieu. » Et quand ça reste au fond d'un cœur, et c'est ce qui va amener toute cette perturbation, on pourrait peut-être dire, cette situation conjugale d'ambiguïté, tout simplement. Il a peur qu'on le tue. Et il est en face d'un roi, hein, et il n'est pas dans son pays, il est dans le pays de Guérar, il n'aurait jamais dû sortir, finalement, eh bien, là, quand il était au chêne de Morée, probablement. Mais bon, il est sorti un petit peu de son territoire, et puis il perd pied dans tout ça. Il a peur qu'on le tue pour s'emparer ensuite, lui mort, de sa femme. Alors, les choses vont vite, hein. Voilà, je tue le mari... Et puis, je vais pouvoir prendre sa femme. Enfin bon, c'est écrit comme ça, hein, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Il y avait eu déjà chez Abraham, parce que c'est jamais tout, ça ne marche pas tout seul, ça. Ça ne vient pas d'un seul coup, et puis, non. Il y avait déjà une première expérience du genre qui remonte des années auparavant, alors qu'il était avec Lot, son neveu, dans son séjour en Égypte, 20 ans auparavant, et Abraham a été très humilié. Il a été même chassé de l'Égypte. Il est parti avec Père Tefraka, là, à ce moment-là. Pharaon lui a dit, écoute, tu m'as trompé. Et moi, je te mets dehors. Hein. Et c'est là un peu son reproche. Il est revenu aux chaînes de Moré. Mais cela, malgré qu'il ait été chassé, malgré qu'il ait été humilié, cela ne l'empêche pas pour autant de recommencer à faire passer sa femme pour sa sœur. Il y tenait quand même. Hein. Voilà. Moi maintenant, je veux dire, je parlerai de mon épouse, je lui dirai ma sœur. Vous pouvez l'appeler ma sœur aussi, hein, si vous voulez. Et je voudrais vous dire que c'est une bonne sœur. N'est-ce pas? Alors Abraham navigue dans les demi-vérités. Ah, il n'est pas au clair par rapport à ça. C'est ma femme, c'est ma sœur, etc. Tout le monde s'aperçoit que je suis en train de dire à tout le monde, mais c'est ma sœur alors que c'est ma femme. Vous arrivez à suivre? Compliqué, hein? Bon. Alors, il navigue dans des demi-vérités et je dis, en réalité, Sarah était bien sa demi-sœur. Donc, il ne mentait pas. Mais d'un autre côté, à cause qu'il avait peur, eh bien, il ment. Les frères et sœurs, hein, la peur, hein, c'est terrible. Ça nous fait faire de grosses bêtises. Ça nous fait commettre des dissimulations, mais un jour ou l'autre, ça se voit. Naturellement, hein. Parce qu'à ce moment-là, c'est de l'inceste. C'est encore pire, hein, selon les lois que nous avons, hein, ça c'est sûr. Sarah est fille de son père Abraham, mais d'une autre mère. Ça arrive très souvent, ça, hein, dans les mariages entre les rois de Juda, etc. Et puis, il y a un mélange. Mais alors, disons, quelquefois, on se demande, mais il serait bien de réviser l'état civil, hein, parce qu'il faut suivre. C'est sûr qu'il faut suivre. Je sais pas, on prêche pratiquement jamais, hein, sur ce texte. Moi, la dernière fois que je l'ai prêché, ça devait être en Angers, il y a 20 et quelques années. Et je me dis, il faut que je le donne à Saint-Nazaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'embarque dans des aventures à Saint-Nazaire, hein. C'est normal, c'est un port. Alors, nous voyons qu'il y a quelque chose qui apparaît. Dans cette affaire, c'est l'ambiguïté de la relation. Je le signale encore, c'est une demi-vérité. On ne dit pas des demi-vérités, on ne fait pas des demi-mensonges. On dit soit le mensonge ou on dit la vérité. C'est tout. Pour Dieu, c'est comme ça, hein, c'est normal. Puisqu'il nous est dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Dixit Habakkuk, chapitre 2, verset 13. Alors cela, je l'aurai toujours dans ma tête. Je l'ai cherché pendant des semaines et des semaines, sans concordance. J'ai passé du temps, mais je le sais maintenant. Alors, nous voyons que ces demi-vérités vont affaiblir l'homme de Dieu remarquable qu'il est, l'homme illustre. Et nous voyons que ça va avoir des conséquences, on va le voir maintenant. Durant des années, Abraham ne sera jamais tranché la question de la crainte, de la peur, des vérités, des demi-vérités. Et ce flou va lui attirer nombre d'ennuis. Et on le verra par la suite, on le verra. Isaac, son fils, reproduira la même chose, parce que ce qu'il a vu chez son père Abraham, il fera la même chose avec Rebecca. C'est terrible, hein, cet atavisme du péché qui suit les familles. C'est vrai pour le mensonge, pour les fautes morales comme ça, mais c'est vrai également pour l'alcool, pour la drogue, pour toutes sortes de choses, hein, on le voit malheureusement. Et à Guérar, dans le pays d'Abimélec, eh bien, nous voyons qu'Abraham va réitérer sa première faute, et cette fois, sa culpabilité est encore plus grande que la première, parce que finalement, il prend le risque d'exposer Sarah, après que Dieu lui ait dit formellement, par trois anges, que sa femme enfanterait avant la fin de l'année. Chapitre 8 du livre que nous avons ouvert, versets 9 à 10. Vous rechercherez si vous voulez. Voilà. Vous vous rendez compte? Il va y avoir un enfant qui va venir. Elle l'a attendu 25 ans. Lui, il a 80 et quelques années, elle sait à peu près la même chose. Et Dieu lui a dit, tu auras un fils, ce sera le fils promis. C'est pas avec sa sœur qu'il a eu le fils premier, hein, qu'il a eu Isaac, hein, c'est avec sa femme. Mais c'est pas clair comme ça. Comment, devant une telle déclaration, si proche de la réalisation de la promesse divine, parce qu'il lui a dit avant la fin de l'année, tu auras un fils. Voilà. Hein. Et pourtant, il va tomber dans le piège, il est prêt au but. Ils ont attendu 25 ans l'un et l'autre, le fils attendu, le fils de la promesse, et là il va faire une bourde pas possible. C'est terrible une chose pareille. C'est souvent lorsque nous sommes près du but que quelquefois nous faisons les plus grosses bourdes de notre vie. Peut-être parce qu'on y sommes fatigués, parce que nous sommes impatients, parce que nous n'y croyons plus. Et ça, c'est arrivé quelquefois. On a vu des frères et des sœurs qui attendaient des choses merveilleuses, extraordinaires. Dieu leur confirme. Il va leur confirmer, il va leur dire. Et à ce moment-là, eh ben, ils vont commettre la bêtise qu'il ne faut pas commettre. Il faut vous en souvenir, hein, parce que ça peut arriver. Ça vous est peut-être même arrivé. Hein. Alors Abraham, comment peut-il commettre une telle erreur puisque Dieu l'a prévenu? Son comportement ne peut s'expliquer que par deux choses qui nous sont familières à nous aussi. On est faible. N'allons pas jouer les gros bras, n'allons pas jouer « je suis plus fort que ceci », et puis il n'y a pas de problème, et puis voilà. Et puis sans berlificoter dans des choses qui ne sont pas toujours très 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 régulières. Alors son comportement à Abraham peut s'expliquer que par ces deux choses, la peur et l'incrédulité. La foi engendre la paix et la joie, la peur engendre l'incrédulité. Et c'est là où ici il faut combattre, parce qu'il y en a un qui nous guette au coin du bois, qui va nous effrayer. Et Abraham avait peur qu'on le tue. Et il ne voulait pas naturellement que ça fasse pas ça, avec un autre homme. Mais c'était surtout sa crainte de mourir, en tous les cas. Et l'incrédulité. Et même parfois, nous passons ces choses-là, la peur et la crainte, d'une manière passagère. La peur et le doute, ou la peur et le doute, ou d'où le doute, sont fréquents chez les croyants, chez les enfants de Dieu, et amènent avec eux leur cortège de confusion, d'égarement, de compromission et quelquefois de lâcheté. Et là, il a été lâche, hein. C'est de la lâcheté. Le résultat, c'est que Sarah sera enlevée, elle sera enfermée dans le harem d'Abimélec. Imaginez la situation, parce qu'elle n'y est pour rien, la pauvre. Imaginez la situation pour Sarah, la croyante. Quelle honte! Et en témoignage devant des inconvertis, devant des païens, vous vous rendez compte? Quelle honte! Et tout cela pour n'avoir pas déclaré franchement, eh bien, la vérité qu'Abraham était réellement son mari. C'est bien dommage. Moi, quand je présente mon épouse, je dis c'est mon épouse aux gens. Je dis c'est ma femme. Voilà. Mais je suis pas là. Voilà. D'ailleurs, tout le monde la connaît. Hein. Réputation internationale. Bah oui, des Myriam. Eh, Myriam, c'est Marie. Hein. Enfin, ne pas confondre quand même. L'eau trouble ne convient pas vraiment aux enfants de Dieu. Et peut-être certains d'entre vous, ou peut-être d'autres chrétiens, se battent avec ce problème de demi-vérité, demi-mensonge. Ils sont pas à l'aise, ils ont l'habitude. Ce sont des vieilles histoires qui remontent avant leur conversion, mais ça n'a pas été réglé. Et quand ils se trouvent mal pris, lorsque véritablement ils sont dans l'ambiguïté, et puis la solution de facilité immédiate, c'est de mentir, en disant ben, « ils n'y verront rien ». Eh oui, mais attendez, il y a quelqu'un qui sait, lui. Hein. Et le Seigneur n'est pas là pour nous punir, il est là pour nous donner des leçons, pour que nous soyons curés de ces vieilles situations qui traînent au fond de notre mentalité, au fond de nos cœurs. Parce qu'il veut que ses enfants soient saints comme lui, il est saint. Alors, il nous est dit dans le texte, « Alors, Dieu apparut en songe à Abimélec, au roi de Guérar, et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Les paroles de connaissance, les paroles, les dons spirituels de connaissance, même dans l'Ancien Testament. Ce que n'osait pas dire Abraham, eh ben c'est Dieu qui va lui dire en songe. Et que Dieu est capable de révéler des choses. Des paroles de connaissance. Paroles, discernement des esprits. Où l'inspiration vient de Dieu, où l'inspiration vient de la chair et de l'homme, où l'inspiration vient du diable. Et Dieu révèle. N'avez-vous jamais été confronté avec une parole de connaissance dans l'immédiat, à un moment ou un autre, des choses qu'on a sagement cachées et qui, quelque part, vous éclatent à la figure? Oh, c'est extraordinaire! nous avons vécu une situation récente où Dieu a mis en lumière par des inconvertis une situation qui touchait un chrétien. Et sans vouloir vanter la chose, je voudrais vous dire que quelques années auparavant, j'avais été prévenu à travers un songe où je voyais l'individu en question, le chrétien en question, tomber. Alors, on s'est empressé de prier. On a prié. Et il y a très peu de temps, la chose est venue d'une manière inattendue par des inconvertis. Et là, je peux vous dire que c'était quand même une drôle d'histoire. Dieu sait ce que nous essayons de cacher. Dieu révèle ce qui est nécessaire. Et moi, dans le but de sauver la personne, de sauver Abraham, de sauver Paul, Pierre ou Jacques, ou au féminin comme au masculin. Eh oui, j'aurais pu aller voir la personne et lui dire, voilà, Dieu m'a montré. Mais je ne l'ai pas fait. La sagesse impliquait que nous prions pour la personne. Mais comme il s'est renforcé, comme il n'a pas voulu entendre, eh bien, à un moment donné, mais alors ça fait du bruit, hein. Je peux vous dire que ça fait du bruit monumental. Ne voyez pas en moi un visionnaire et puis un prophète. Hein. Pas du tout. Mais il y a des choses qui sont véritablement des révélations de Dieu. Surtout quand on les cache et qu'on dit, ben non, c'est pas ça, et qu'on veut nous faire croire le mensonge. Moi, j'ai un ami quelque part qui s'appelle Vladimir. Vous connaissez Vladimir? Oui. C'est pas Casimir, hein, vous savez. Non, c'est Vladimir. Et à chaque fois que sa partie adverse dit une chose, mais il dit le contraire. Et il y a des millions et des millions de gens qui le croient. Hein. Voilà. Enfin, tout le monde ne le croit pas, heureusement. Non, mais quand je dis que c'est mon ami... Oui. Bon. Toujours est-il que Dieu a paru à Abimélec. Et il lui a dit, mais tu vas mourir. C'est la sanction, mais ce n'est pas que Dieu allait le faire mourir, parce que la preuve, on va voir la suite. Oui, il t'a dit que c'était sa sœur, mais c'est son mari. C'est radical et expéditif. Hein. Et c'est vrai que je voudrais dire que à ce régime de sanctions brutales comme ça, vous savez, permettez-moi de le dire avec un petit coin de un sourire, c'est que la terre serait débarrassée de toutes les aventures extra-conjugales. Moi, ça me fait sourire quand je vois ça, parce que je me dis, ben dis donc, il resterait plus grand monde. Hein. On remarque d'abord que Dieu n'intervient pas auprès d'Abraham. Dieu ne va pas s'adresser aux croyants, responsables de la situation, mais auprès du païen Abimélec, comme jadis, il est intervenu auprès de Pharaon, du temps de Moïse, du temps d'Abraham, pardon, toujours du temps d'Abraham. Oui. Eh oui. Dieu ne va pas prendre le croyant et en disant « Tiens, ben, je te serre au cou et puis tu vas voir un peu. » Non, il peut se servir aussi de l'extérieur. C'est ce qui se passe dans cette affaire. Dans cette affaire précisément, le croyant et le païen ont quelque chose à apprendre tous les deux, de toute manière, quoi qu'il en soit. Cependant, on est surpris, sachant que sa femme a été enlevée, séquestrée, qu'Abraham n'a pas levé une petite armée comme il l'avait fait pour Lot. Vous connaissez l'histoire ? Il faut bien connaître sa Bible, hein, mais c'est ça. Hein. Il avait levé une armée, il avait délivré son neveu Lot, il ne le fait même pas pour sa femme. Il n'est pas très bien assis dans son fauteuil, notre brave Abraham. Eh oui, ça le... Et Abraham semble ne rien faire. On le voit dans le texte. Et plus terrible encore, il semble ne rien faire, mais il laisse faire. Oh ! Qu'est-ce qui se passe chez Abraham ? Il a perdu la tête ou quoi ? C'est sa femme ! Il a bien fait pour son neveu, il ne fait pas pour sa femme. C'est que le problème n'est pas sa femme, le problème c'est lui-même qui est en train de se battre avec, là, au niveau de son comportement et de son tempérament, quelque chose qui le gêne, quelque chose qui le brûle. Et ça, oui, c'est difficile à reconnaître. Parce qu'il est quand même le patriarche, il est quand même l'homme que l'on appelle l'homme de la foi. Et permettez-moi... à sa décharge de vous dire, comme ça peut nous arriver, mais ce n'est pas une excuse, c'est que quelque part, eh bien, il a un passage à vide, comme ça peut nous arriver nous-mêmes. Et ce passage à vide s'appelle tout simplement la crainte, la peur. Et elle domine, et elle lui elle lui pompe son courage, elle lui pompe sa droiture, elle l'empêche d'être ce qu'il doit être. Alors il ne sait plus ce qu'il doit faire, et comme il ne sait plus ce qu'il doit faire, il ne fait rien. Et il laisse les choses courir, et pendant ce temps-là, sa femme a disparu. Quand la foi nous anime et nous soutient, il est donné cette belle parole, les justes trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures pour connaître la volonté de Dieu. Notre conscience, elle est là. Et à défaut que notre conscience ne nous parle pas, Dieu est capable de nous faire des révélations. Ou de les faire, si nous ne sommes pas prêts à les entendre, les faire aux autres. C'est pour ça que quand on a, et peut-être vous avez fait l'expérience, mais quand Dieu nous parle, et quand Dieu nous donne une révélation, n'allez pas vous précipiter à dire tout de suite ce que vous avez reçu. Priez. Ça suffit. Parce que si la personne n'est pas prête à recevoir ce que vous allez lui dire, ça ne sert à rien. Vous avez, quelque part, eh bien, perdu votre vent et vous faites perdre votre temps au Seigneur. Enfin, quoique lui, il a du temps. C'est le vide chez Abraham. Ça arrive. Il est parfois très surprenant et il faut se souvenir qu'après 25 ans d'attente dont nous parlions tout à l'heure pour la naissance du petit Isaac, après la promesse confirmée, quand la victoire est presque en nos mains, que même le meilleur des croyants peut connaître de telles défaillances, oublier ou faire le contraire de ce qui est attendu de lui, tout simplement. Et pourtant, il avait espéré si longtemps et au dernier moment, il va le perdre à cause d'un mensonge. Alors Abraham, dans cette période, est hors course, momentanément. Dieu intervient et de quelle manière ? On va le voir, rapidement. Abimélec et sa maison sont frappés d'une maladie mystérieuse que nous apprenons dans le texte, et nous le lirons tout à l'heure, de stérilité généralisée. Eh oui, c'est ça la punition en quelque sorte. Mais Dieu ne veut pas le punir sans l'avertir. Parce que Dieu nous avertit quand on marche à côté de... Et là c'est un païen, c'est pas un chrétien. Alors d'autant plus pour un chrétien. Il y a ce songe divin est donné à ce non-croyant, qui le reçoit comme un avertissement sérieux et à l'issue, si résistance il y a, ça sera la mort. Oui, s'il refuse. Par contre, c'est curieux, lui, il va le recevoir, Abimélec va le recevoir d'une manière très sérieuse. Par contre, Abraham, il va dire, hein, on passe. C'est ça, quelquefois. Il y a plus de résistance chez les croyants qu'il peut y en avoir, quelquefois, chez les enfants de Dieu. On connaît trop bien le Seigneur. Il est bon, il est miséricordieux. Et puis bon, bah, il ferme les yeux, quelquefois. Non. Dieu a les yeux ouverts, quoi qu'il en soit. Mais ce n'est pas pour détruire. C'est pour nous appliquer sa discipline divine pour nous sauver et nous faire apprendre certaines leçons. Nous sommes enfants de Dieu. Il est notre Père. Et comme un Père... et nous sommes des enfants légitimes, eh bien, il va se comporter comme le meilleur de tous les pères pour nous. Ouais. Malgré la sévérité de la sanction, Dieu tient compte que le roi de Guérar a agi dans l'ignorance. Il était pour rien, celui qui est tombé dessus. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il a convoité une femme, parce qu'elle était belle, et qu'elle n'était pas lui, mais lui, il pensait qu'elle était finalement libre, tout simplement. Alors sa protestation sincère en témoigne, nous l'avons lu, on peut le lire peut-être à travers, quand il dira ceci, Abraham qui ne s'était point approché d'elle répondit, « Mais Seigneur, ferais-tu périr une nation juste ? Pourquoi me punis-tu ? etc. etc. » C'est probablement à cause de la maladie indiquée qu'il s'est déclaré qu'Abimélec ne s'est pas approché de Sarah. Oui, parce que Dieu lui a dit, il va y avoir quelque chose. Et là, il a eu peur. Il a eu peur que Dieu lui dise la vérité. Et Dieu lui a dit la vérité. Il a eu peur, il ne l'a pas fait. Par contre, Abraham savait les choses et il l'a fait lui. C'est assez particulier ça. Alors, nous voyons que c'est vraiment le problème qui traîne et qui n'est jamais réglé et qui, un jour ou l'autre, va nous croiser. En attendant l'école divine est réservée à Abimélec, c'est lui qui va payer en quelque sorte, Dieu lui communique les vraies raisons de ce qui lui arrive, à savoir sa maladie, sa guérison conditionnelle. Parce qu'il y a une condition, même s'il est innocent, lui. Cette maladie subite qui le touche n'a pas de cause simplement naturelle, mais relève d'un ordre supérieur, un ordre spirituel. Elle n'est pas non plus un châtiment, mais un obstacle, une sorte d'empêchement à la consommation du péché. Dieu, quelquefois, nous arrête. Il nous arrête pour pas qu'on aille plus loin. Et on se dit, mais pff, ça marche pas. Et derrière, il y a dans l'ombre, Dieu qui dit, mais non, non, ça marche pas, mais moi je veux pas que ça marche, parce que si jamais ça marche, tu vas mourir, tout simplement. Si on ose le lire, le dire et le comprendre, il ne s'agit pas d'un acte de justice, mais d'un acte d'amour préservateur qui prend en compte que le péché engendre la mort, comme Jésus le dira dans l'Évangile, et que cette mort est beaucoup plus redoutable que celle qui nous effraie dans notre vie tout simplement naturelle. Et ainsi, cette vie spirituelle est beaucoup plus importante, et cette mort spirituelle, la seconde mort, nous dit la Bible, c'est encore autre chose que la mort du corps, hein, quoi qu'il en soit. Hein. C'est ce que Jésus a voulu dire d'ailleurs, hein, dans Matthieu chapitre 10 et verset 28, vous pourrez le relire, hein. Il dira, mais méfiez-vous de ceux qui tuent, qui sont plus dangereux parce qu'ils tuent l'âme, et non pas le corps, hein. Jésus le dit. Nous avons ici la preuve que dans le gouvernement divin sur les âmes humaines, Dieu, qui connaît tout, est parfois animé, voire obligé, à cause de nos comportements et de nos faiblesses, à intervenir douloureusement. Il y a quelquefois la maladie au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il nous est dit à la Sainte Cène ? Examinez-vous vous-même, parce que certains sont malades et d'autres même en sont morts. Alors, Dieu est patient, hein, je peux vous dire. Hein. Mais à un moment donné, ben voilà. Et on ne peut pas dire c'est les autres, c'est ceci, c'est cela. C'est nous qui nous mettons dans des situations. C'est terrible. Hein. Ce passage est redoutable. C'est pour que nous vivions. Et que nous ne soyons pas apportés par l'adversaire à travers ses subterfuges pour nous faire mourir l'âme. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre, on l'a dit tout à l'heure, chapitre 10. Méfiez-vous, parce que cette mort-là, elle est encore plus grave. Alors, Dieu veut nous conserver en quelque sorte, et nous voyons que nous ne devons pas l'envisager comme une punition, mais comme une discipline, comme un jugement, comme une condamnation, mais comme une discipline, entendons bien. Au verset 6, il est dit, Dieu lui dit, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi, et c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Et quelquefois, vous savez, c'est bien, on ne comprend pas, on se révolte, on dit « Seigneur, c'est pas normal, moi je voulais ceci, je voulais cela, et puis tu m'en empêches. » Eh bien, Dieu va nous dire à un moment ou à un autre, « Mais écoute, je t'en ai empêché parce que je voulais pas que tu meurs. Je voulais pas que tu traînes dans une maladie qui n'en finit pas, parce que ça aussi, ça peut être sans mourir, mais on peut traîner des choses. Alors, ne voyez pas cela comme quelque chose d'automatique, et à chaque fois, et surtout n'allez pas le dire à ceux que, quelquefois qui sont dans la difficulté en disant « Moi, je crois que Dieu est en train de, voilà, de régler ton compte. » Non, 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 ça regarde chacun. Faisons attention à ça, parce que c'est nous qui pouvons y passer après. Pas y passer pour mourir, mais vivre quelque chose. Le péché est toujours considéré comme une atteinte directe à la sainteté de Dieu, bien qu'il soit aussi préjudiciable à nos semblables. Ce n'est pas contre nous seulement, mais c'est aussi... Il y a des gens qui ont des comportements qui, mais véritablement, qui créent du trouble et de la peine, de la souffrance à ceux qui vivent avec eux. Ça peut être dans le monde du travail, un chef qui est irascible et un petit peu pervers sur la tête, enfin sur les côtés, ou alors, par exemple, un mari, une femme, des enfants, enfin toutes sortes de choses. Là aussi, il y a des raisons. Quelquefois, on dit le monde va mal, mais il va mal, mais pourquoi il va mal? Il y a bien des raisons. Hein. Ouais, ça peut être préjudiciable pour nos semblables, on leur pourrit la vie, alors qu'on est là pour les bénir. Maintenant, voici ce que doit faire Abimélec. Abimélec, au verset 7. Maintenant, Dieu lui dit, rends la femme de cet homme. Il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne rends pas la femme, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. C'est dur, là. On y apprend plusieurs choses, que l'obéissance est de faire et la voie du rétablissement. L'obéissance, la voie du rétablissement. Dieu est capable de pardonner tous les péchés, mais il ne bénira pas une désobéissance. Ok ? Je répète, Dieu est capable de pardonner tous les péchés à cause de Jésus-Christ et de notre foi en Jésus-Christ, mais il ne bénira pas une désobéissance. Et là, vous pouvez toujours compter hein, là-dessus. Ça ne marche pas. Deuxième point, qu'Abraham est prophète. On l'apprend. C'est pas très élogieux pour un prophète, un homme de Dieu, un homme de foi. Troisième point, que la prière est source de libération et de guérison, de soulagement, de paix, de joie, alors que la résistance à la volonté est destructrice. Il y en a qui tournent en rond depuis des années, mais il ne faut pas qu'ils s'étonnent, hein, pourquoi ils tournent en rond. Il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. Tout simplement, et Dieu nous attend. Tout simplement. Abimélec obtempère, il va faire ce que Dieu lui demande, et montre, lui et ses serviteurs, c'est-à-dire toute sa nation, qu'ils prennent au sérieux la révélation, et ils ont une grande frayeur à ce moment-là. Ils ont peur. La suite intéresse Abraham, et on a terminé là-dessus, et l'on remarquera que la leçon qu'Abraham reçoit est d'autant humiliante que ce n'est pas Dieu qui la lui donne. C'est un païen qui va la lui donner. Vous vous rendez compte ? La gifle, le soufflet, il va se faire secouer, non pas par Dieu, Abraham. Dieu va s'occuper du païen. Mais c'est le païen lui-même qui va donner, finalement, la leçon à Abraham. Qui va faire de justes reproches aux croyants. Et quel témoignage attristant lorsque nous voyons Abraham a laissé derrière lui, et c'est le verset 9, Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé ? Que tu m'aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et puis la suite, vous lirez. « Quelle intention avais-tu pour me faire une telle mal ? » Moi, je t'ai jamais rien demandé. Hein. « Quelle intention avais-tu ? » Inutile de dire que quand un chrétien se comporte mal à l'extérieur, il ne passe pas inaperçu, parce que tout le monde sait que c'est un chrétien. D'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Le monde s'attend à autre chose de notre part. Ça, c'est clair. Et c'est pas la peine de prier pour la conversion des inconvertis. C'est pas la peine de prier pour avoir un bon témoignage. Si, à côté de ça, finalement, nous avons, d'une manière voilée, cachée, tout ça, eh bien, des propensions à mentir, à biaiser. Les gens, ils sont pas fous, ils le savent. Alors ses intentions, Abraham va péniblement tenter de les expliquer, et c'est chose embarrassante que de parler de nos défaillances. Ça, c'est pas évident. J'ai pas été ceci, j'ai pas été cela, je me suis mal comporté. C'est pas évident, hein. Ça, c'est du courage en tous les cas, quoi qu'il en soit. Et nous voyons que il y a une première raison à cela, parce que le raisonnement d'Abraham était celui-ci, si on va au bout de l'étude, hein, parce que c'est une étude hein, ce matin. Hein. « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans le pays de Guérar. » Ce sont des païens. Ils ne doivent pas certainement avoir une notion de Dieu. Je peux me permettre. Ben non, parce qu'il y a une conscience quand même. « Et qu'on me tuerait à cause de ma femme. Ce qui dévoile clairement un jugement erroné, inspiré par la crainte. » De mourir est manifestement un manque de foi. En d'autres termes, Abraham a eu peur et il ne sait pas négocier sa peur. Et ça va l'entraîner dans toutes sortes de choses. La deuxième raison invoquée, elle est ma sœur, mais fille de mon père devenue ma femme. Ben, c'est ce qu'il fallait dire tout de suite. Je suis parti moi aussi. Hein. Quelquefois, on voit des chrétiens qui s'emberlifient. Ils essaient de rabibocher une situation, alors qu'à un moment donné, moi, j'ai envie de leur dire, dites ça, parce qu'on le sait déjà. Au lieu de tourner, de vouloir s'expliquer, s'explicasser, enfin, je ne sais pas, moi, hein, il y a toutes sortes de choses, mais il me dit, mais tu perds ton temps. Tu ferais mieux de me dire tout ça. Parce que, vous savez, il y aura toujours une bonne approche quand quelqu'un dit la vérité. Bon, voilà, il a fait ça, et ben moi je suis capable de le faire aussi. Donc je n'ai pas non plus à vouloir être redresseur de tort. Je me disais, ben oui, je me disais. Mais ce n'est pas de me dire à moi, c'est d'être vrai avec moi-même. et pas d'essayer de faire des demi-vérités et puis d'essayer de composer ce qui n'est pas composable. Je me disais, voilà. Elle est ma sœur, la fille de mon père devenue ma femme. C'est très alambiqué, hein, cette histoire. Vous savez, quand on est parti dans les complications, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Moi, je me suis toujours... On est dans une société où tout est simple en ce moment. L'administration, l'informatique, etc. C'est merveilleux. On est arrivé au summum, hein, vraiment, de la simplicité. Hein. Je me demande comment j'ai encore des cheveux sur la tête. Hein. Mais bon, c'est pour vous dire que c'est ça. Mais c'est la nature humaine, tout simplement. Hein. Cette réponse implique un manque de droiture. La vérité se suffit à elle-même. À l'origine de cette dissimulation déguisée, il y a toujours la peur. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec un frère responsable dernièrement, et puis de m'expliquer un petit peu avec lui. Je lui dis, moi, tu vois, ton problème, c'est que t'as peur. Il me dit, mais certainement pas, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Ah ben, je lui dis, écoute, tu me dis que tu n'as pas peur, mais moi, je veux dire que tout prouve que tu as peur. Ça se voit. C'est gros comme le nez, au milieu de la figure, à moins que le nez soit à l'envers. Enfin, derrière. Ouais, il n'était pas content. Non, jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. Hein. Vous savez qu'on est dans un monde aujourd'hui, il y a des vrais passeports, il y a des fausses, il y a des vraies fausses factures, il y a de vrais faux mariages blancs. Enfin, vous savez, il y a tout. Hein. Alors, je finis. L'explication, le verset 13. Abraham dira à sa femme, « Dis de moi que tu es ma sœur, que je ne suis pas ton mari. » Alors là, vous savez, on est dans le délire. Hein. Quand on commence à suggérer aux autres ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire, contrairement à leur conscience, ça va mal. Cet arrangement douteux donne au procédé le caractère de la lâcheté et en arrière-goût de quelque chose de prémédité pour se sortir d'affaires. C'est honteux. Qu'est-ce que c'est que cette omelette? Qu'est-ce que c'est que ce mélange? Ben ça, c'est Abraham. Quand on fait dire par les autres ce qu'on n'a pas le courage de dire soi-même, eh bien, le système ne va jamais très loin. À un moment ou à un autre, de toute façon, il y a des fuites et puis ça ne marche pas. Une fois de plus, c'est encore la peur qui fait agir Abraham. Et il y a cette fâcheuse convention, cette fâcheuse habitude que l'on a, que le raisonnement d'Abraham est celui, finalement, d'un homme qui, eh bien, n'est pas aussi solide qu'on le pense. Hein. Voici le service que tu me rendras, dit Abraham à Sarah. Dis que tu es ma sœur. Voilà. Dis de moi. Il y a des mécanismes dans la nature humaine et des façons de penser dont on ne peut plus se défaire jusqu'au jour où ils nous trahissent et révèlent au grand jour notre vraie nature, tout simplement. Réflexe automatique de protection et de défense. Mais c'est faux. S'il n'y a pas la vérité, c'est faux. Le fond du problème d'Abraham, c'est la peur. Plus encore, la peur qui amène à mentir. Le mensonge de la peur. Hélas, rarement l'inverse. La peur du mensonge. Voyez la différence ? Mensonge qui vient par la peur et non pas « moi je m'abstiens et je vais vivre une vie de droiture, de vérité, de rectitude parce que j'ai peur du mensonge. » Alors je ne mentirai pas parce que j'ai peur du mensonge. Quand on regarde bien dans la Bible, les exemples sont nombreux. Hein. Il y en a eu des hommes hein, qui ont tripoté un peu ce genre de bombe hein, quelque part. Il est important pour terminer que les croyants de régler le problème de leur peur qui entraîne à pécher, à mentir, à désobéir, à dissimuler, à l'agressivité, parce que quand ils sont pris ou quand ils sont en mauvaise posture, ils deviennent agressifs. Ah, tu penses que je suis... Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des gens. Mais qu'est-ce que tu supposes? Mais tu me prends pour un menteur? Eh ben oui, tu me montres que tu es menteur. Moi, je l'ai eu, hein, quelquefois. Tu me prends pour un menteur? Alors bon... Il ne faut quand même pas exagérer. Quelquefois, c'est tellement avéré qu'on n'a pas besoin de faire de commentaires. Alors, vaut mieux arrêter. Parce que, de toute façon, ça ne mène à rien. La peur n'est jamais une bonne conseillère. Et je finis. 14, verset 16. 14 à 16. Cela te sera un voile, nous dit Abimélec, pour essayer de réparer un petit peu, Abimélec donne des présents à Abraham en guise de dédommagement, parce qu'il a quand même fait un geste vers sa femme pour la kidnapper, et ce geste revêt une signification humiliante pour le patriarche, ce qui pouvait vouloir dire « je paie l'amende, mais c'est toi qui es fautif ». Abimélec va payer l'amende, même s'il n'a rien fait, mais en tous les cas, la faute reste à ton nom, hein. Elle reste sur ta tête, hein, quoi qu'il en soit. Il est question de cette couverture Dieu. À un moment donné, cela te sera un voile sur les yeux, en quelque sorte. Et nous voyons que ça a deux sens. Si Abraham, le mari, n'a pas su être ce qu'il aurait dû être, le monde, qui est représenté par Abimélec, donne à Sarah sa vraie position d'épouse. Et il faut que ce soit un inconverti qui dise « mais arrête avec tes histoires, hein, hein ?» Le monde est en train de voir que c'est ton épouse. Voilà, tout simplement. Ce dédommagement, en deuxième point, peut aussi signifier que la faute est couverte aux yeux de tous ceux qui ont été les témoins de ce scandale. Eh oui, en quelque sorte. Puis je finis celui pour dire et conclure que l'homme de foi a été blâmé par le monde. C'est pas une bonne référence. Ce qui rend évident que quand le peuple de Dieu ne se recouvre pas du voile de la vérité, voilà ce qui arrive. Le voile de la vérité. De l'intégrité morale. De l'honnêteté. Il ne peut que perdre le respect et son témoignage est gravement discrédité. Et malheureusement, dans nos églises, il y a eu de la casse. Parce que les chrétiens n'ont pas été intègres. Ils n'ont pas toujours été clean. On pourrait dire peut-être. Hein. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui disent « ne me parlez pas de Dieu, ne me parlez pas d'Église, ne me parlez pas de ceci », ils ont raison. Moi, je ne leur donne pas tort, parce qu'il faut voir peut-être qu'ils ont été confrontés en disant « si c'est ça être chrétien, ce n'est pas la peine ». Et ça fait mal. Ça fait mal, parce que finalement, quand on voit qu'il y a une grande majorité des chrétiens qui ont à cœur le salut, qui ont à cœur et qui véritablement normalisent leur vie dans ce qui est bon, ce qui est beau, et puis d'avoir un bon témoignage, et qu'il y en a d'autres qui passent derrière et qui mettent tout par terre, c'est... Abraham a prié pour le non-coupable, c'est-à-dire Abimélec. Dieu a exaucé, Abimélec a été guéri, l'un de sa stérilité, puisque c'était la conséquence, et l'autre de ses peurs. Et oui, tout simplement... N'y aurait-il pas aussi stérilité lorsque nous sommes aux prises avec la peur, le mensonge de la peur, voilà, c'est ça dans le sens-là, le mensonge de la peur. Et surmontant toutes les défaillances, Jésus rappelle, si vous demeurez en moi, la vérité vous affranchira du mensonge et de la peur. Et dans le premier texte que nous avons lu, dans Genèse 3, Adam dira, j'ai eu peur et je me suis caché. Caché la vérité. Parce que lui, il avait eu la leçon dans le jardin d'Éden avant le chapitre 3. Hein. Je me suis caché, j'ai caché la vérité, je me suis caché de la vérité. Et toutes les feuilles du figuier, parce que vous avez vu, il n'avait pas été chez Balmain ou je ne sais pas qui. lui, il avait trouvé ce qu'il avait sous la main et puis il s'est fait une ceinture avec des feuilles de figuier. Mais on y reviendra peut-être à un moment donné. Hein, parce que le textile coûte cher aujourd'hui. Hein. Voilà. Hein. Alors, feuilles de figuier qui font quelquefois approximativement l'affaire, vous comprenez, pour dissimuler ce qu'on ne veut pas dire et qui pourtant est la vérité. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne... J'espère que ce n'était pas trop difficile. Voilà. Hein? Maintenant, si vous voulez, on peut le reprendre dans 8 jours et on recommence. Hein? Hein? Que Dieu nous bénisse et nous allons simplement rendre grâce et puis continuer la suite du culte, terminer le culte. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ce sont quand même des affaires, des histoires qui nous sont rapprochées, qui nous sont rapportées et qui ont un sens et qui montrent le tréfonds de l'âme humaine. Et même chez des hommes comme Abraham. Alors, nous ne voulons pas salir le nom d'Abraham, puisque c'est le père de la foi. Et nous croyons, Seigneur, qu'il peut y avoir de temps à autre dans notre monde, dans nos comportements, dans notre monde à nous, eh bien, Seigneur, des passages à vide. Et que là, eh bien, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler, notamment avec cet ennemi qui est la peur, qui engendre l'incrédulité et qui amène en effet eh bien, à mentir, à dissimuler la vérité. Tu bénis mes frères et mes sœurs et tu nous donnes d'être authentiques, d'être véridiques. Donne-nous, Père éternel, ton esprit, parce que ton esprit, c'est l'esprit de vérité, nous dit Jésus. Je vous enverrai l'esprit de vérité. Alors, merci, répands cet esprit de vérité. Et puis, quelquefois, il nous faut du courage pour avouer, pour dire, pour régler les comptes, si nous ne voulons pas rester malheureux toute notre vie à traîner des fardeaux qui n'en finissent pas et qui nous pénalisent, mais qui pénalisent aussi les autres, qui pénalisent l'Église. Merci, Seigneur Jésus. Amen.